Une lecture, Matthieu chapitre 8, pardon, et verset 11. Je vous la lis. Matthieu 8, 11. Or, je vous déclare, c'est Jésus qui parle, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Ces trois textes nous montrent que Dieu ne fait pas de favoritisme. Excusez-moi l'expression, mais Dieu n'est pas raciste. Dieu ne va pas regarder vers vous au travers de votre carte d'identité, de votre passeport, au travers peut-être de votre carte de membre. De quelle communauté chrétienne faites-vous partie? Êtes-vous catholique? Êtes-vous protestant? Êtes-vous évangélique? Assemblée de Dieu, Toulouse-Sainte-Anne, 9 rue Saint-Guilhem. Dieu ne nous regarde pas au travers d'une carte spéciale, ou au travers de notre origine, ou quoi que ce soit. Dieu regarde à nos cœurs ce soir. Il voit dans nos cœurs, et il nous connaît parfaitement. Puisqu'il ne regarde pas ce que l'on dit de nous, il ne regarde pas d'où on vient, mais il regarde qui on est. Il vous connaît personnellement, et il a ses yeux posé sur vous, parce que tous les êtres humains ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et dans le contexte du dernier texte qu'on vient de lire, on voit Jésus qui est là et il dit à des Juifs, il leur dit, mais vous savez, des gens de l'Orient, de l'Occident, c'est-à-dire des étrangers, iront dans le ciel. Mais vous qui êtes censés être le peuple de Dieu, certains d'entre vous n'iront pas au ciel, parce que Dieu connaît le cœur et ne regarde pas à notre origine. Et juste après, dans le même chapitre, au verset 23, il nous est dit ceci. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et à partir du verset 28, on va le lire. Jésus va aller vers des étrangers. Il va aller dans un pays étranger, justement, chercher des personnes qui étaient perdues. Verset 28, il est dit, lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit, « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Amen. Jésus est allé dans un pays étranger chercher ceux qui étaient perdus. On voit que Gadara veut dire quelque chose. Gadara veut dire entouré. Entouré. Et lorsqu'on regarde sur une carte où était Gadara, on voit qu'elle était entourée de pays étrangers. Gadara ne faisait pas partie, au temps de Jésus, des peuples qui étaient favorables à ce pays-là, à cette ville-là. Et à 10 villes, ils se sont rassemblés pour former la décapole, c'est-à-dire une petite assemblée de villes qui étaient là et qui s'entraidaient. Il y avait des échanges commerciaux, ils s'entraidaient militairement pour se protéger. Et tout cela, eh bien, pour éviter l'oppression et l'attaque d'autres peuples extérieurs, entourés. Peut-être dans un contexte, des circonstances qui n'étaient pas forcément favorables. Un contexte qui n'était pas à leur avantage. Et est-ce que vous ne trouvez pas que dans notre temps actuel, avec toutes les actualités qu'on entend, nous sommes dans un temps qui n'est pas favorable, dans des circonstances où autour de nous il ne fait pas bon vivre. Est-ce que vous ne trouvez pas que le monde va mal? Qu'autour de nous on est entouré de mauvaises nouvelles et peut-être que vous pouvez dire, mais ce qui m'entoure c'est les soucis, ce qui m'entoure c'est la maladie, ce qui m'entoure c'est l'oppression, la tentation. Peut-être vous qui êtes au Seigneur, vous réalisez que dans ce monde, il y a beaucoup de tentations. Et vous dites, voilà, il y a un contexte qui n'est pas favorable. Et Jésus, il est là, rentré dans ce pays. Dans ce contexte, il n'était pas favorable, il est venu pour voir deux personnes. Deux personnes, en tout cas, il est venu dans ce pays et on sait qu'il n'est pas venu pour rien. Il savait pourquoi il devait venir et deux hommes se jettent à ses pieds. Et peut-être que votre contexte n'est pas favorable. Peut-être qu'autour de vous, il y a des circonstances défavorables, des soucis, des ennuis, la maladie, un manque de travail, etc. Mais Dieu veut aller plus loin. Jésus n'a pas changé la ville. Est-ce qu'il a changé la ville? Est-ce qu'il a changé le contexte de la ville? Pas du tout. Par contre, il a changé le contexte intérieur. Il n'a pas changé l'extérieur de ces deux âmes, le contexte extérieur, mais il a changé leur cœur. À l'intérieur, il est allé travailler. Ces hommes étaient possédés, il nous est dit. Ils avaient le mal en eux. Combien de personnes se suicident? Combien de personnes sont en dépression? Combien de personnes sont dans la tristesse? Mais à l'intérieur, ils n'ont pas la paix, pas la joie de vivre. Ils sont tristes, oppressés à l'intérieur. Moi, je peux vous le dire, je le vis. À l'extérieur, il peut se passer toutes sortes de mauvaises choses, mais à l'intérieur, on peut avoir malgré tout la paix. C'est ça que Dieu veut offrir aux hommes, veut donner aux hommes. Malgré les circonstances, et ça ne va pas s'arranger, Jésus disait lui-même que le monde allait aller de mal en pire, et on le voit, mais à l'intérieur, dans nos cœurs, à chacun personnellement, Dieu veut faire une action particulière. Dieu veut vous bénir, vous mettre la paix, vous donner la joie à l'intérieur de votre cœur. Et tout ce qu'il a fait sur la terre, c'était pour qu'aujourd'hui, vous puissiez recevoir une paix qui dépasse toute circonstance, qui dépasse tout élément extérieur, quelque chose qui est à l'intérieur. Il veut même habiter en vous. Et ces hommes étaient là dans un contexte mauvais, mais en même temps, ils avaient à l'intérieur quelque chose de mauvais aussi. Deux hommes qui étaient là, et qu'est-ce qui leur arrive? On l'a vu, hein? On l'a vu, ces hommes vont être délivrés. Délivrés. À l'intérieur, quelque chose va changer. Le mal va disparaître. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez de cette bénédiction de Dieu? C'est ça la question. Jésus a tout fait, tout accompli, mais vous, voulez-vous de cette paix à l'intérieur? Voulez-vous que Dieu vienne mettre cette paix? Peut-être quelqu'un est sous la culpabilité. À l'intérieur, même si à l'extérieur il sourit, etc., dedans, il ploie sous le poids de la culpabilité. À l'intérieur, il s'inquiète pour son avenir. À l'intérieur, peut-être dans le silence, il a la peur de la mort. Toutes sortes de choses qui peuvent se passer à l'intérieur et que nous-mêmes, on ne peut pas voir. Jésus peut venir faire le ménage à l'intérieur de votre cœur, régler les problèmes intérieurs. Ça, c'est ce qu'il a fait pour deux hommes. Et je rajouterai un mais. Mais. On va voir que sur ces deux hommes, un seul a compris quelle était la vraie bénédiction dans ces moments-là. Vous lisez avec moi dans l'évangile de Luc, au chapitre 8 et au verset 26. Verset 22, c'est le même récit. La même histoire qui nous est racontée avec un autre point de vue, celui de Luc. Un jour, Jésus monta dans une barque, verset 22, avec ses disciples. Il leur dit « Passons de l'autre côté du lac » et ils partirent. Verset 26, ils abordèrent dans le pays des Garazéniens. C'est la même ville, seulement l'un était appelé avec le nom hébreu, l'autre était appelé avec le nom grec, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus demandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait tous les liens, et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda « Quel est ton nom ?»« Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui, et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux, il le leur permit. » Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé, ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Garazéniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Amen. On voit que au dernier verset, Jésus n'est pas allé dans la ville de Gadara parce que là où il était, il n'avait pas trop de réussite. Tous l'attendaient. Il y avait une foule qui était avec Jésus, qui suivait Jésus, qui était guéri par lui, qui vivait des miracles. À un moment, Jésus multiplie les pains pour des milliers de personnes. Jésus fait toutes sortes de miracles. Mais à un moment, Jésus choisit d'aller voir un étranger, d'aller voir deux étrangers, d'aller de l'autre côté du lac, dans le pays de Gadara. Et il arrive dans ce pays, il voit ces deux hommes, mais dans ce texte, il ne nous est parlé que d'un seul. Et on note une différence avec le premier texte. Celui-là, à la fin, il veut suivre Jésus. On peut être béni à l'intérieur. Moi, je connais des personnes qui ont été guéries physiquement. Ils sont rentrés dans un lieu de culte comme celui-ci. Ils ont reçu la guérison de leur corps. Ils étaient contents et on ne les a plus jamais revus. Si ce n'est que dans un bar en train de cuver leur vin, en train de se saouler, même s'ils avaient été bénis, matériellement, physiquement. Je connais plusieurs personnes qui ont fait des expériences comme ça avec Dieu et qui sont parties avec leur bénédiction, mais qui n'ont pas réalisé quelle est la vraie bénédiction. Avoir rencontré le Seigneur Jésus, le Seigneur de l'univers, celui qui peut pardonner des péchés et qui peut nous sauver, non pas qu'aujourd'hui de notre maladie, mais du péché et de l'enfer pour l'éternité. Et nous prendre avec lui dans l'éternité là-haut. Cet homme-là, alors qu'il y en a deux qui ont été bénis, lui, il a réalisé qu'il y a une bénédiction qui surpasse toutes les bénédictions matérielles et physiques. C'est celle d'avoir une relation intime avec le Seigneur Jésus. Celle de connaître Jésus et de le suivre chaque jour, d'avoir du temps avec lui. Vous voyez ce qu'il veut faire cet homme ? Il veut suivre Jésus. Jésus repart, il prend la barque et cet homme lui dit « Mais voilà, je veux venir avec toi ». Jésus, qu'est-ce qu'il lui répond ? Il dit non, va dans la ville, va raconter ce que Dieu a fait pour toi. Et nous, peut-être, qui avons été au bénéfice d'une expérience avec Dieu et même du salut, on a ouvert les yeux sur la personne de Jésus, ce Dieu qui veut nous sauver, ce Dieu qui a donné sa vie, ce Jésus qui a payé à notre place pour que nous évitions l'enfer. Et nous qui voulons le suivre, on voudrait être au ciel de suite, non ? Monsieur Hugo est candidat. Moi aussi, je suis candidat. Je voudrais tout de suite être au paradis. Plus de souffrance sur la terre. Vous avez vu tout ce qu'on entend ? Cet homme qui a tué lui-même, qui s'est fait tuer. Quelle misère ! Quelle misère ! Tout ce qu'on entend, des fois la maladie, toutes ces choses. On voudrait éviter, échapper à toutes ces choses. Je vais au ciel, la tranquillité pour l'éternité. Mais Jésus nous dit, non, tu veux me suivre, c'est bien. Mais tu vas me suivre d'une autre manière. Je vais être avec toi, mais pas physiquement. Ni spirituellement dans le ciel, pour l'instant déjà sur la terre, parle de moi, parle de ce que tu as reçu. Parce que Dieu veut vous bénir pour que vous puissiez être un témoin sur la terre. Un jour vous le rejoindrez dans le ciel, soit parce que vous quitterez cette terre, votre temps arrivera à sa fin, soit parce que Jésus va revenir, puisque c'est écrit aussi que Jésus revient bientôt. Cherchez les siens et jugez aussi la terre. Jésus revient. Mais il dit non, pas tout de suite, pendant un temps, sois un témoin. Et nous qui avons été au bénéfice de la grâce de Jésus, je nous pose cette question. Employons-nous notre vie à être un témoin, à partager ces bonnes choses que Dieu nous a données, ou est-ce qu'on profite encore de la vie jusqu'à ce qu'un jour on quitte cette terre ? Est-ce qu'on est égoïste ou est-ce qu'on vit pour Jésus ? Pour Jésus. Vous avez vu ce qu'il a fait cet homme ? Il a dit ok, je l'ai rentré chez lui et il a publié dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui et tout ce que Dieu avait fait pour lui. Merci Seigneur, que nous puissions tous bien tirer enseignement et comprendre que suivre Jésus, être au bénéfice de sa présence, c'est aussi être un témoin pour lui, partager ce qu'il a fait pour nous. On reprend un peu du départ. Vous avez vu comme il y a eu un combat. Jésus disait à ce démon de quitter cet homme. tu quittes. » Et je pense que c'était pareil pour le deuxième. Il y avait ces deux hommes et Jésus leur dirait de sortir. Et eux, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Puis à un moment, ils commencent à discuter. « Ne nous tourmente pas. » Le démon commençait à discuter. Il y a un combat entre le mal et le bien. Il y a un combat. Qui va remporter dans votre vie? Qui va remporter? Le diable ou le Seigneur Jésus? Le péché ou le bien? Qu'allez-vous choisir? Il y a un combat spirituel. Et Jésus est là pour remporter la victoire dans votre vie et vous libérer de vos chaînes, comme on l'a entendu et comme il l'a fait aussi dans ce texte pour ces personnes. Il y a vraiment un grand combat. On voit au verset 33, les démons sortirent de cet homme et entrèrent dans les pourceaux. Il nous est dit que Jésus permit aux démons d'aller dans les pourceaux. Je crois que c'est exceptionnel. Ça ne s'est jamais reproduit. Non? En tout cas, dans la Bible, on ne le voit pas. Hein, que Jésus ou Dieu permette à des démons de sortir d'un homme et d'aller dans des animaux. Pourquoi Jésus a permis ça? Pourquoi Jésus l'a permis? Je crois que c'est pour nous montrer les dégâts que fait le diable dans notre monde. Et que si dans le monde les gens s'entretuent, si dans le monde les gens sont méchants les uns envers les autres, s'ils s'autodétruisent, si les gens s'autodétruisent, sont égoïstes, c'est parce qu'ils ne sont pas au Seigneur, ils ne veulent pas de Dieu dans leur vie. Vous avez vu comment on l'a accueilli, entre guillemets, Jésus à la fin? Même si Jésus délivre ces personnes, quitte notre territoire, hein, part. Quitte notre territoire. Quelqu'un un jour m'a dit, mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toute cette misère dans le monde, toute cette violence, tout ça. Mais on voit bien que la violence, les meurtres, les suicides, c'est la conséquence du monde qui ne veut pas de Dieu et qui ne veut pas de l'amour de Dieu. Parce que quand quelqu'un reçoit l'amour de Dieu, il aime les autres. Comme Dieu n'est pas raciste, quelqu'un qui aime, qui a l'amour, reçu l'amour de Jésus, qui a Jésus dans son cœur, il n'est pas raciste. Dernièrement, quelqu'un me montrait un mail qu'il avait reçu. Voilà, un homme politique qui avait envoyé un mail en masse. Vous recevez sûrement ces pubs sur vos mails quelquefois, hein. Et il disait, voilà, il montait un peu les gens contre l'islam, contre les musulmans, contre les arabes, contre les pays de l'Orient comme ça. Et il me montrait, tiens Jérémy, qu'est-ce que tu en penses? T'as vu ça, ça, entre guillemets, ça craint ce qu'ils font les musulmans. J'ai dit, mais déjà, ce qui est marqué, c'est faux. Et puis, de qui on cherche son inspiration? Auprès des hommes politiques? Ils peuvent rien pour nous. Auprès de mails, de publicités qu'on fait? Dans la vie d'un chrétien, qui c'est qui doit régner? Qui c'est qui doit nous inspirer? La parole de Dieu qui nous dit de nous aimer les uns les autres? Est-ce que Dieu aime les Arabes? Bien sûr. Est-ce que Dieu aime le musulman? Bien sûr. Est-ce que Dieu aime le français? Bien sûr. Mais est-ce que les Français veulent de lui? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que nous, on répond à cet amour? Qu'est-ce qu'on veut faire face à cet amour de Dieu? Et voyez, je crois que si Dieu a permis, au travers de Jésus, que ces démons aillent dans ce troupeau, et qu'il nous soit rapporté des milliers d'années après, puisque ça fait 2000 ans au moins que c'est passé, que ces pourceaux se sont suicidés, c'est pour nous montrer les dégâts du diable et du péché dans notre vie. Le péché, c'est pas anodin. C'est quoi le péché? C'est une rébellion contre Dieu. Ne pas vouloir de Dieu. Mépriser Dieu. Mépriser Jésus qui a donné sa vie par amour pour vous. Ça fait partie. Et toutes sortes de choses qu'on pourrait encore citer. Voilà les dégâts du péché dans une vie. Et au verset 35, au contraire, voilà les dégâts de Jésus dans une vie, si je peux dire ainsi. Les gens allaient voir ce qui était arrivé, ils vinrent auprès de Jésus et qu'est-ce qu'ils voient? Cet homme qui vivait tout nu, dans les sépulcres, qui criait, qui s'en prenait aux passants, qui se jetait dans les déserts, qui se meurtrissait lui-même, voilà comment il est. Voilà les dégâts du Seigneur Jésus quand il vient dans une vie. Il était assis à ses pieds, vêtu. Tiens, il se rhabille. Dans son bon sens, ah, il est intelligent. Il retrouve son bon sens. Et vêtu, assis dans son bon sens. Assis, ça peut nous faire penser à quelqu'un paisible, quelqu'un qui est posé, assis. parce que je ne crois pas qu'il était avec les chaînes, on ne pouvait pas le lier, il ne devait pas se contrôler, toujours, vous savez, impulsif comme ça, je ne sais pas. Quelqu'un de possédé, c'est difficile à maîtriser d'ailleurs, hein. Et puis il ne reste pas tranquille, je crois. Et là, il était assis, vêtu dans son beau sens. On a les dégâts du péché et les dégâts du Seigneur. Moi, je préfère les dégâts du Seigneur. Et je sais que c'est ce que le Seigneur veut faire. La Bible ne rend pas fou, elle rend intelligent. Seulement, elle remet les choses dans leur bon sens. Est-ce qu'on en veut ? Est-ce qu'on en veut ? Le monde refusera toujours Dieu. Le monde ne veut pas d'un Dieu. Le monde ne veut pas. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Jésus a dit, au travers de plusieurs textes, il nous est dit qu'il y aura plus de monde qui refuseront Dieu, qui refuseront l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, et qui iront en enfer, que ceux qui l'accepteront. C'est comme ça. Le monde refusera toujours. Vous savez, moi, si j'étais le propriétaire du troupeau, je serais bien embêté, non ? Pas vous ? J'ai des milliers de pourceaux, ils étaient peut-être plusieurs, et voilà que mes pourceaux se jettent et se suicident. Ben mince, plus de travail. J'aimerais vous dire que si Jésus convertissait, sauvait, si tout le monde se convertissait au Seigneur Jésus, il y aurait du chômage dans certains domaines. Les boîtes de nuit fermeraient. Les bars où on s'alcoolise fermeraient. Les vendeurs trafiquants de drogue, il n'y aurait plus. Toutes sortes de pays, hein. C'est un pasteur qui disait cela. Oui, c'est dangereux les chrétiens. Parce que quand ils sont là, il n'y a plus de travail. Quand les gens se convertissent, certains domaines, ils ferment les portes. Mais c'est un bon danger. C'est des bonnes choses. Oui, le monde ne veut pas parce qu'il regarde à son propre intérêt. À son propre intérêt et il ne réalise pas en fait quel est son intérêt. Et au verset 38, suivre Jésus. Vous avez vu ? Il lui demande la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoie et lui dit « Retourne dans ta maison, sois un témoin. » Oui, cet homme, il a compris que ce que Dieu donne, c'est pas pour qu'il le garde tout seul, mais pour qu'il le partage autour de lui. Alors voyez, on voit deux personnes qui sont au bénéfice de la grâce de Dieu. Deux personnes qui sont touchées dans leur être, délivrées d'une oppression, du mal dans leur corps, personnellement. Le contexte est mauvais, peu importe, les deux sont délivrés. Comme un jour où il y avait deux brigands à côté de Jésus. Les deux avaient la grâce d'être à côté du Seigneur Jésus. Et il n'y en a qu'un qui a compris quelle était cette opportunité qu'il avait et qui a saisi l'opportunité d'avoir le pardon de ses péchés pour aller au paradis. Et là, pareil, deux personnes sont guéries. À un autre moment, il nous est dit que 10 lépreux sont arrivés vers Jésus. Les 10 ont été guéris et qu'il n'y en a qu'un qui est revenu rendre grâce, remercier le Seigneur. Là, deux sont délivrés, un seul veut suivre Jésus et comprend quelle est la plus grande des bénédictions. Lequel allez-vous être ? Ce soir, vous êtes déjà béni, puisque vous avez pu lire la parole. Les commentaires n'ont peut-être pas été bons, mais au moins le message de l'Évangile, lui, il était intact. C'est déjà une première grâce. On est tous bénis ce soir. Mais qui va accepter de réaliser quelle est la plus grande bénédiction ? Faire la paix avec Jésus, demander pardon pour ses péchés, pouvoir avoir la communion du Dieu très haut, du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois, celui qui a donné son Fils, Jésus, pour qu'il meure à la croix, à notre place pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Qui allez-vous être ? Et maintenant je m'adresse dernièrement, à ceux qui ont déjà donné leur vie, déjà donné leur cœur. Vous avez vu que Jésus a voulu aller voir un peuple étranger, un peuple qui se perdait, particulièrement deux hommes. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il est monté dans la barque et le moment où il a débarqué sur ce pays pour faire du bien ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Dans les deux textes, si vous lisez un peu plus avant, verset 22, allez, on lit que celui-là. Trois versets. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Les deux textes nous parlent et nous disent que juste avant de débarquer dans le pays qui avait besoin d'être touché par Jésus, il y a eu la tempête. Et ça me parle ce soir, et j'aimerais vous demander, Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir voulu parler à quelqu'un du Seigneur, partager cette bonne nouvelle, et que d'un coup il y a une tempête qui se lève, quelque chose qui vient pour vous empêcher? Vous savez, vous voulez parler à votre voisin du Seigneur Jésus, et puis d'un coup la crainte qui commence à grandir dans votre cœur, la timidité, le cœur qui palpite et vous n'y arrivez pas, et votre timidité vous empêche de parler. Est-ce que ça vous est jamais arrivé de vouloir visiter quelqu'un, aller voir quelqu'un, une mamie, quelqu'un, et puis d'un coup, une circonstance, un rendez-vous de dernière minute, la banque qui a absolument besoin d'aller les voir, je ne peux pas faire la visite. Ou alors, comme ça m'est arrivé, le pneu qui crève. Vous voulez faire une visite, aller voir quelqu'un qui a besoin d'entendre l'évangile, d'être soutenu, et ah, le pneu qui crève. Vous voulez parler du Seigneur, vous voulez passer du temps dans la prière pour que le monde soit sauvé et ouvre les yeux sur la bonté de Dieu. Et puis paf, une fuite à la maison, quelque chose, un coup de téléphone. Vous savez, si c'est arrivé aux disciples, ça nous arrive aux nous aussi, ça peut nous arriver. Peut-être que quelquefois vous avez voulu vous lever pour servir Dieu, pour être des témoins. Peut-être qu'après les réunions qu'il y a eu dernièrement, où on vous rappelait le fait que la vie de l'esprit, c'était une mort à soi-même, mourir à soi-même et vivre pour Dieu, donner sa vie entièrement pour Dieu, se consacrer, vous avez dit, moi, je veux venir, je veux me lever, c'est vrai, ça me touche, je réalise que je suis endormi, je veux me réveiller. Et puis, sorti de l'église, les soucis de la vie, la tempête, toutes sortes de vents qui passent, des idées, des pensées, et on oublie l'engagement ou la réflexion qu'on s'était faite, la décision peut-être qu'on avait prise. Toutes sortes de choses qui peuvent venir comme une tempête, comme pour nous empêcher d'aller faire l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, il se lève et il parle à la tempête. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Où est votre foi? Nous, on croit que la foi, c'est faire des miracles. On croit que la foi aussi, c'est, malgré l'opposition, dire non. Moi, je sais que Dieu m'a appelé à être un témoin. Et je vais le faire. Je sais que moi, je ne suis pas capable. Mais le Saint-Esprit en moi va m'aider à être un témoin. Une témoin pour le Seigneur Jésus. Quelqu'un qui se lève, qui se consacre. La tempête, les soucis, la maladie, quelque chose se lève. Seigneur, je ne me laisserai pas distraire. Je comprends qu'il y a des âmes qui ont besoin d'entendre le beau message de Jésus mort à la croix à cause de nos péchés et pour le pardon, pour notre pardon, pour notre vie éternelle, pour qu'on reçoive la vie éternelle et qu'on aille au paradis et non en enfer. Le monde va en enfer. Cet homme est mort en tirant sur des policiers qui venaient l'arrêter alors qu'ils lui proposaient de lui garder la vie sauve. Je suis sûr que cet homme croyait qu'il allait au ciel. Et cet homme aujourd'hui, il doit s'expliquer devant Dieu. En tout cas, il attend. Il attend le jour où il s'expliquera devant Dieu. Je ne veux pas jeter un jugement sur sa vie, je ne connais rien. Je sais qu'il a entendu l'évangile. Des gitans lui ont parlé de l'évangile, lui ont proposé une Bible. C'est tout ce que je peux savoir de cet homme. C'est tout ce que je sais. Il est passé à côté de cette bonne nouvelle de Jésus qui l'aimait. Il est passé à côté de quelque chose. Sa vie aurait pu changer. Imaginez-vous 24 ans plus jeune que moi. Il a gâché sa vie. Et vous? Qu'allez-vous faire? Jésus a tout accompli. Dieu a tout fait pour que vous soyez sauvés et pour que vous puissiez échapper aux conséquences de vos péchés, aux conséquences dans l'éternité. Qu'allez-vous faire? Jésus vient, les circonstances, il vous dit que ce n'est pas un problème. L'important, c'est dans votre cœur. Qui règne dans votre cœur? À qui laissez-vous la place? Au mal qui nous monte les uns contre les autres, qui nous rend égoïstes, qui nous dit ne pense pas à Dieu, ne pense pas à ton éternité? Ou est-ce que c'est Jésus qui vous dit « Sois en paix, tu vas aller au ciel avec moi, même malgré les circonstances ici-bas, simplement, sois un témoin, parle de ce que j'ai fait pour toi, parce qu'il y en a d'autres qui ne savent pas encore. » Alors oui, ne nous laissons pas arrêter par la tempête. Allons parler autour de nous. Amen. Merci Seigneur pour ces quelques paroles, ce partage ce soir. Tu as mis sur mon cœur encore une fois, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de bénir, bien sûr, matériellement, physiquement, de bénir dans les circonstances extérieures, même peut-être à l'intérieur, de guérir quelqu'un qui serait dans une dépression, quelqu'un qui serait malade, peu importe. Je sais que tu peux le faire. Tu as tout accompli, tu nous as montré que tu pouvais le faire. Ce que tu ne feras pas, Seigneur, c'est de forcer quelqu'un à t'accepter et à te suivre, Seigneur. Alors ce soir, si quelqu'un était à l'écart de cette bonne nouvelle, de cette grâce d'avoir une intimité avec toi chaque jour, s'il te plaît, Seigneur, révèle-toi encore à lui. Ô Seigneur, touche encore nos cœurs par ton Esprit Saint. Et tout ce que nous sommes, Seigneur, qui avons déjà reçu cette grâce, d'avoir compris certaines choses, d'avoir emboîté le pas, d'être à ta suite, Seigneur, d'avoir cette espérance du paradis, si quelque chose nous avait empêché d'être les témoins que tu veux que nous soyons, eh bien, Seigneur, viens ranimer ce feu en nous. Viens nous aider, Seigneur. Par ton esprit, convainc-nous encore qu'il faut que nous nous réveillions et que nous ne nous soyons pas arrêtés par ces tempêtes, ces soucis et ces circonstances. Tu peux calmer la tempête. Tu nous demandes d'avoir confiance, d'avoir de la foi et de croire en cet appel divin qui nous dit que d'aller par tout le monde parler de la bonne nouvelle. Merci, Seigneur, pour ceux qui ont osé parler à Mohamed, ce jeune homme. Au moins, on sait, Seigneur, qu'il a eu le choix, mais il y en a tant d'autres qui ne savent pas. S'il te plaît, envoie-nous, montre-nous et donne-nous du courage. Aide-nous, Seigneur, à avoir ce courage pour nous lever et ne pas gâcher notre vie, mais la vivre pour un projet qui vaut la peine, Seigneur. Ton projet, celui de sauver le monde, parce que tu l'aimes et que tu aimes chacun d'entre nous personnellement. Que ton nom soit béni pour cette prière, Seigneur, que tu as à cœur toi aussi, qui est selon ta volonté, j'en suis sûr. Alors je te fais confiance pour le reste de ces moments. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci. Amen.